Et nous continuons notre émission européenne avec notre invité Francesco Ricci, professeur d'économie à l'Université de Montpellier et qui s'intéresse beaucoup aux questions environnementales. Bonjour Francesco.
Bonjour Xavier, mes salutations aux auditrices et aux auditeurs.
Nous allons évoquer un sujet qui semble un petit peu ardu, mais qui est essentiel pour le changement climatique, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Rapidement, c'est donc l'Union européenne souhaite mettre en place ce mécanisme, notamment pour rembourser la dette due au Covid. Mais c'est un peu ardu, Francesco. On va essayer d'être le plus simple possible. Déjà, en quoi consiste ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières? Qu'est-ce que c'est?
Alors, c'est une proposition de la Commission européenne formulée cet été. Un complément et un accompagnement du marché carbone européen, qui est une institution qui est mise en place depuis 17 ans à l'échelle européenne et qui régule les émissions de carbone de plusieurs installations industrielles qui consomment de l'énergie et donc limite la quantité d'émissions possibles selon les régulations décidées par les autorités européennes. Cet instrument, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, est une sorte de tarif douanière aux importations en provenance d'en dehors de l'Union européenne, qui devrait être acquitté par les importateurs, par exemple d'acier, en fonction du contenu carbone de leurs produits qu'ils importent et en fonction du prix sur le marché européen du carbone.
Donc s'ils ne sont pas alignés avec ce que font les entreprises européennes, ils payent une taxe aux frontières.
Exactement. Et d'ailleurs, cette taxe peut être réduite. L'importateur, s'il peut démontrer que l'acier produit dans le pays d'origine est soumis à une réglementation carbone, donc incorpore déjà un prix carbone, par exemple, au Royaume-Uni, il existe déjà un prix carbone, eh bien, la tarif douanière sera réduite d'autant. Sera juste donc pour rendre équivalente le coût du carbone utilisé dans la production à celui auquel sont confrontés les industriels en Europe.
Et ça concerne le monde entier?
Ça concerne le monde entier.
Tous les produits extérieurs de l'Union européenne qui souhaitent entrer.
Alors, pour l'instant, pas tous les produits. Déjà, c'est une proposition qui a vocation quand même à être en vigueur de forme expérimentale déjà l'année prochaine, en 2023, mais sous forme contraignante à partir de 2026. Et pour l'instant, on cible uniquement 5 secteurs, donc l'acier que j'ai cité, le fer, l'aluminium, la production d'engrais, le ciment et l'électricité.
Donc tous ces secteurs que donc j'imagine l'Europe produit peu ou pas du tout, ils viendraient d'où principalement? Est-ce qu'il y a déjà des endroits du monde où on sait que ça va poser problème?
Absolument. On a en tête, je citais, que le Royaume-Uni ne pose pas de problème parce qu'ils imposent déjà un prix carbone aux industriels locaux. Par contre, la production d'acier en provenance, disons par exemple de l'Inde ou de la Chine, n'est pas sujette à ces prix carbone et en conséquence, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières vise précisément ce type d'importation-là.
Pour que ce mécanisme soit mis en œuvre, il faut de toute façon un accord des États membres. Pour l'instant, ils sont en discussion. Est-ce que concrètement, ça voudra dire quoi pour le consommateur européen si cette taxe, ce mécanisme était mis en place?
Eh bien, que dans les marchandises qu'il va acheter, il va être confronté au coût des émissions carbone qui cause un problème qui s'appelle le changement climatique. Et donc, en fait, il va faire face à des produits plus chers s'ils utilisent beaucoup de carbone. Et donc, c'est un mécanisme, la tarification carbone, qui incite soit à consommer moins de ces produits, soit à consommer des produits équivalents, mais moins consommateurs de carbone, notamment dans la production d'électricité. On voit bien, hein, si on produit l'électricité avec du charbon, on émet beaucoup de carbone, mais si on utilise une éolienne, beaucoup moins.
D'accord. Et l'objectif de cette, de ce mécanisme, qu'est-ce que c'est en fait ?
Alors l'objectif, il faut le comprendre dans le cadre de la politique climatique européenne. L'Union européenne porte depuis le début des années 2000 une politique très ambitieuse et d'ailleurs unie, au moins sur le front du marché carbone. Et très ambitieuse parce qu'elle se fixe des objectifs qui vont au-delà de ce que les autres nations s'imposent. Et donc, il faut comprendre qu'elle a fixé des objectifs de neutralité carbone d'ici 2050, d'une réduction drastique des émissions carbone en Europe d'ici 2030, mais 2030, c'est bientôt, et notamment quand on parle de sidérurgie, les installations sont là pour durer plusieurs dizaines d'années. Et donc, face à cette ambition très, très importante, ben, on s'attend à un renchérissement très important du permis à polluer, disons le permis carbone sur le marché européen. Face à cela, les industriels, mais aussi les syndicats et les autorités publiques nationales s'inquiètent du risque que, en fait, l'activité sous le sol européen diminue, soit parce qu'on importe des marchandises à l'extérieur plutôt que de produire en local, soit qu'on incite les industriels européens à délocaliser la production. Donc, la réponse qui constitue, en fait, ce mécanisme, c'est une réponse à ces craintes. Or, jusqu'ici, on ne l'a pas... L'Union européenne n'a pas fait cette proposition jusqu'à 2021, alors que le marché carbone existe déjà depuis 17 ans. C'est essentiellement parce que le problème ne s'est pas posé, probablement en raison du fait que les prix du carbone sont restés très bas. Ils étaient autour de 10 euros pendant 10 ans, et maintenant ils se sont plutôt entre 50 et 80 euros. Et donc la crainte de fuite des industries devient plus
prégnante.
Plus prégnante.
C'est vraiment une volonté politique de l'Union européenne dans son ensemble de taxer ces entreprises étrangères qui pollueraient. Pour dire vite.
Alors, c'est clairement un acte politique. Alors, justement, il faut le comprendre au sein de la politique climatique européenne. Le fait qu'elle devienne plus ambitieuse implique que ce sera plus coûteux pour les citoyens européens. Donc, il faut qu'ils l'acceptent. Et cette forme de protection de l'industrie et donc des emplois à l'intérieur de la zone est bien vue d'un point de vue politique aujourd'hui. Elle peut, par contre, être mal vue de l'étranger, de nos partenaires commerciaux, évidemment. Et d'ailleurs, ça doit être compatible aux engagements que l'Union européenne a pris au sein du droit international du commerce, donc l'Organisation mondiale du commerce. Et de ce point de vue-là, l'Union européenne, ce qu'elle essaye de faire avec ce mécanisme, c'est de... en fait, entraîner la mise en place de politiques climatiques ambitieuses aussi à l'étranger. Donc, prenons l'exemple de l'Afrique du Sud, qui n'en a pas vraiment une pour l'instant, de politique climatique contraignante. Pourtant, elle produit beaucoup de charbon et c'est a quand même des impacts climatiques importants. Eh bien, elles seront confrontées, les industriels de l'Afrique du Sud, à un arbitrage. Soit on reste sans politique climatique que chez nous, mais en conséquence, quand on veut exporter vers l'Union européenne, on fait face à un tarif, donc on sera moins compétitif. Soit on choisit de mettre en place, nous, une tarification carbone chez nous, donc on a une recette fiscale en Afrique du Sud, non pas en l'Union européenne, et à ce stade, on aura accès au marché européen sans cette taxe.
C'est, en quelque sorte, c'est un cercle vertueux. Chaque partie du monde va être obligée de moins polluer pour fabriquer ses produits, si elle veut commercer avec l'Union européenne.
C'est l'idée, disons, c'est l'idée si ça fonctionne. Parce que ça pourrait être un cercle vicieux si, par contre, ça génère une guerre commerciale. Mais il y a un accord, effectivement, que comme le problème du climat c'est un problème de bien public à l'échelle globale planétaire, ben, il faudrait que chacun contribue, alors de manière différenciée, hein, par les mêmes efforts. Il y a les pays qui historiquement sont responsables parce qu'ils ont émis par le passé, hein, qui doivent faire plus. Il y a ceux qui peuvent se permettre des efforts plus importants parce qu'ils ont des niveaux de vie plus élevés. Mais il reste vrai qu'on devrait avoir intérêt, tous les pays auraient intérêt à une politique climatique efficace à l'échelle planétaire. Et donc ce mécanisme-là permet de coupler les intérêts commerciaux à l'intérêt de politique climatique. Et ça s'appelle, disons, le club climat et libre-échange, on pourrait appeler comme ça, qui pourrait se former. Donc ça, c'est l'idée vertueuse. Il n'empêche qu'il y a des risques de friction, puisque c'est une volonté européenne qui est imposée de facto sur des États souverains.
Mais l'Union européenne étant la première puissance commerciale mondiale, on peut imposer ce genre de choses, non ? Puisqu'on est quand même un marché assez riche, assez attractif.
On peut espérer que ça fonctionne, surtout si on le fait en lien et en accord avec les États-Unis, le Japon, par exemple.
Est-ce que, si j'ai bien compris, c'est donc les importateurs qui devront prouver que les produits qu'ils importent en Europe sont convenables ? Il y a moyen de frauder ?
Alors les détails, encore, on est très loin de les avoir réglés. Donc déjà, comment on va appliquer cette tarification aux frontières ? Eh bien, en fonction des déclarations des importateurs, qui vont expliquer la procédure pour produire de l'acier qui a été importé. Et donc, il faudra que ces informations soient vérifiées par les autorités nationales. Ce n'est pas trivial. À défaut, si les importateurs ne fournissent pas ce type d'informations, les États qui vont imposer la tarif vont se baser sur des calculs de moyenne au niveau national. Donc, on va dire, en Chine, le secteur de l'acier a émis, d'après les statistiques dévoilées par la Chine, telle quantité de CO2 sur l'année 2020. L'acier a été produit en Chine dans l'année 2020, donc on applique la moyenne des émissions incorporées dans l'acier en Chine. Mais vous voyez là que, du coup, on ne donne pas une incitation à un industriel chinois qui voudrait accéder au marché européen. Il ne pourrait pas dire « oui, mais moi, je suis plus vertueux que la moyenne en Chine ». Et de ce point de vue-là, c'est une politique qui vise plutôt à donner une incitation à l'État chinois de mettre en place une tarification carbone chez eux. Parce qu'en fait, les recettes fiscales, du coup, seraient en Chine et pas aux frontières de l'Union européenne.
Comment a été acceptée cette idée de l'Union européenne dans le reste du monde ? Est-ce qu'il y a des réticences ? Déjà, on sent des réticences ? Ou bien tout le monde dit « super, on va faire pareil et on sera neutre climatiquement tous ensemble ».
On a plutôt entendu des menaces de réaction, et notamment il y a fondé sur le droit international. Donc deux types de droits, celui de l'Organisation mondiale du commerce que j'ai déjà cité. On ne peut pas discriminer les produits, on ne peut pas imposer des politiques nationales des États souverains, comme la politique carbone européenne ne peut pas être imposée à l'Afrique du Sud. Implicitement, c'est un peu l'idée quand même. Mais par contre, l'Organisation mondiale du commerce accepte des tarifs douanières si cela aide à résoudre des problèmes environnementaux. Donc, pour que ce mécanisme ne puisse pas être attaqué au sein de l'Organisation mondiale du commerce, il faudra qu'il prouve son efficacité. Et ça, c'est loin d'être facile à prouver. L'efficacité, c'est-à-dire, est-ce que ce mécanisme permet de réduire les émissions de carbone au niveau planétaire,
oui,
qui est justement l'objectif. Nous, on a une politique de réduction des émissions en Europe. On ne voudrait pas qu'elle soit contrebalancée par une augmentation des émissions à l'étranger. Mais ce mécanisme, c'est pas clair qu'il puisse atteindre cet objectif, et ça ne dépend pas du mécanisme lui-même qui vise plutôt à éviter la délocalisation des activités industrielles de l'Europe à l'étranger. Le problème, c'est un autre. C'est que pour réduire les émissions globales, il faudrait brûler moins de charbon, de pétrole et de gaz. Or, ce n'est pas l'Europe qui décide, sauf pour les réserves de charbon qui sont en Pologne et en Allemagne, en Slovaquie. Alors là, on peut décider d'en brûler moins. Mais par contre, si on importe moins de pétrole, ben, le prix du pétrole baisse. Et donc, peut-être, on en consommera plus en Malaisie, au Brésil, etc. Et donc, sur ces plans, peut-être que le mécanisme ne sera pas approuvé au sein de la... Il sera contesté au sein de l'Organisation mondiale de commerce.
En 2023, c'est... Vous vouliez...
Il y a un autre cadre légal, c'est celui de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, qui prévoit que chaque État doit participer à cet effort global pour le maintien, donc la limitation du changement climatique, mais de manière différenciée selon les responsabilités historiques et selon leurs capacités. Et là, ce mécanisme qui est proposé par l'Union européenne me paraît, à ma humble opinion, ne pas respecter ces principes, puisqu'en fait, on imposerait les prix carbone résultant de la politique européenne à pratiquement aussi à d'autres pays, alors seulement pour la partie de leurs exportations vers l'Union européenne, mais quand même, on imposerait les mêmes prix à l'Afrique du Sud, à la Chine, au Brésil, aux États-Unis, comme importateur, ce qui n'est pas différencié.
Est-ce que l'urgence climatique nécessite pas un petit peu de tordre le bras à la bienséance de l'OMC ?
Peut-être plus que tordre le bras, c'est ce que je pense qu'on a besoin de trouver un accord. L'urgence climatique, c'est une urgence qui touche tout le monde et les pays en développement sont tout à fait conscients de cela. Et donc, il faut trouver un accord et je pense que les avantages commerciaux peuvent être le partage de gains de l'échange commerciaux est une manière de... disons, d'amener tout le monde à contribuer à cet effort mondial.
Ça nécessite aussi que les populations soient d'accord à payer plus cher leur énergie, à payer plus cher des produits. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte.
Alors, je renverserai la logique. Oui. Moi, je dirais que jusqu'ici, nous n'avons pas payé le coût de notre consommation. Parce que en consommant, en roulant avec ma voiture, moi, je ne paye pas toutes les conséquences que mes émissions vont générer pour des habitants dans des îles du Pacifique qui vont être inondées, pour mes petits-enfants, etc. Donc je dirais que c'est plutôt que maintenant et pendant des décennies, nous n'avons pas payé assez cher. Et donc oui, effectivement, les prix vont augmenter, mais augmenter là où ils doivent être. Je dirais que l'erreur a été jusqu'ici de ne pas payer assez.
Ce mécanisme, normalement, si tout va bien, si les États membres et le Parlement européen parviennent à se mettre d'accord, devrait débuter en 2023, donc dans plus de 6 mois. C'est temporaire, avez-vous dit ?
Oui, il y a une phase de transition de 3 ans pour habituer les importateurs, pour habituer les États étrangers tiers qui sont concernés parce qu'ils doivent dévoiler des informations sur leur politique climatique, sur les chaînes de production, etc., le contenu carbone. Donc il y a une phase transitoire, 2026 devrait devenir rentrer en force, donc ils devront vraiment payer. Et un point d'alerte, ce que ça concerne uniquement ces 5 produits que j'ai cités, mais en fait ça pourrait entraîner une fuite, disons, dans la chaîne de valeur, c'est-à-dire si on fait payer à l'importation l'acier de Chine et on ne fait pas payer l'acier qui continue dans les voitures qu'on importe de Chine, on risque la relocalisation de la production des voitures. Mais bon, ça, ce sont des choses à voir ultérieurement. Pour l'instant, c'est déjà très ambitieux d'avoir lancé cette proposition et nous espérons qu'elle entraînera des politiques climatiques plus ambitieuse à l'échelle planétaire.
Très bien. Merci beaucoup, Francesco Ricci, pour ces explications sur ce sujet un petit peu ardu, mais que vous avez su rendre plus clair pour nous, néophytes. Merci beaucoup. C'est terminé pour cette émission consacrée à l'Europe, organisée par Radio Divergence et le Mouvement Européen Héros. Je vous souhaite une excellente continuation de programme et on se retrouve le mois prochain.